La sainteté, on pourrait dire que c'est le compagnonnage avec Dieu. Le compagnonnage avec Dieu. Mais avons-nous le désir d'être proche de Dieu ? Être proche de Dieu, sans trop y penser, ben nous trouvons ça très bien. Mais lorsque l'on creuse un peu plus, cela se corse. Sommes-nous prêts à cette exigence qui est réelle ? Et si nous n'y sommes pas vraiment prêts, qu'est-ce qui peut y remédier ? Voilà sur ce sur quoi je voudrais réfléchir en ce matin avec vous. C'était ce que découvrait le supérieur du monastère dans le film « L'île » de Pavel Lungin. L'igoumène, c'est ainsi qu'on appelle le supérieur dans une communauté monastique orthodoxe, reconnaît dans le frère Anatole un homme assurément déroutant, voire excentrique, mais tout rempli de Dieu, si bien qu'il souhaite partager sa cellule pour apprendre de lui, le temps que sa cellule qui avait été détruite par un incendie soit reconstruite. Alors la cellule du frère Anatole est en fait la réserve à charbon de la communauté avec la chaudière. Le soir venu, avant de s'étendre pour dormir à même le charbon, comme le fait le frère Anatole, le supérieur raconte combien il est heureux de ses bottes, qui étaient un cadeau de l'évêque. Des bottes si souples, important pour lui dont les pieds sont si fragiles, dit-il. Mais aussi, quelle est la bénédiction pour lui que cet édredon qu'il a rapporté d'un pèlerinage en Grèce. Et il s'étend pour la nuit. Au milieu de la nuit, il se réveille suffoquant et voit le frère Anatole jeter sous son regard la paire de bottes dans le feu de la chaudière. Le frère Anatole crie qu'il faut chasser les démons de la pièce en les enfumant. Il monte le niveau des flammes, répand la fumée de la chaudière dans la pièce. Le supérieur est pris par la peur d'étouffer, mais le frère Anatole a bloqué la porte. Finalement, Anatole ouvre la porte et jette l'édredon à la mer, après l'avoir piétiné comme étant le plus petit démon, mais pas le moins dangereux. Alors le père Philaret reprend ses esprits et sa respiration, puis s'adresse au frère Anatole et lui dit « Je ne t'en veux pas, je te suis reconnaissant, tu m'as débarrassé de choses inutiles, mais plus encore, tu m'as montré qu'il y avait peu de foi en moi. J'ai eu peur de la mort dans cette pièce. C'est que je ne suis pas encore prêt. » Alors la vie du supérieur, le père Philaret, n'était pas une vie de débauche, hein, mais c'était une vie qui s'était encombrée de choses inutiles et qui pourtant apparemment lui rendait service. C'était une vie qui, encombrée de ces choses inutiles, ne cherchait plus vraiment le Seigneur comme son seul bien. Sa vie était encombrée, et le père Philaret n'arrivait pas à en avoir conscience, si bien qu'il ne pouvait plus progresser vers Dieu. Il était nécessaire que sa vie fût désencombrée. Désencombrée, et je le répète, non pas de choses mauvaises en soi, mais de choses qui alourdissaient, obscurcissaient, affadissait sa marche vers Dieu. Eh bien, d'une certaine manière, c'était ce que Jésus faisait avec les marchands du temple. À la base, ces marchands du temple rendaient un service. Quand on venait de loin à Jérusalem, on n'avait pas besoin de traîner avec soi les bœufs, les brebis nécessaires au sacrifice. Alors encore, si vous veniez de Béthanie à côté de Jérusalem, ça allait. Mais quand vous veniez en pèlerinage depuis la Babylonie, c'est-à-dire l'Irak actuel, c'était difficile. On ne devait pas non plus utiliser les pièces romaines qui portaient l'effigie de César qui demandait à ce qu'on le reconnût comme un dieu. Parce que sinon, on était complice avec l'idolâtrie. Tu ne feras pas d'image de l'homme ou des animaux. Il fallait bien un lieu pour obtenir des pièces autorisées dans le culte. Mais voilà que ces marchands, qui originellement se tenaient autour du temple ou sur le seuil, avait investi le parvis des païens, c'est-à-dire la première enceinte appartenant à la zone du temple, où les païens, ceux qui s'intéressaient à la révélation du Dieu d'Israël, mais qui n'étaient pas circoncis, qui n'appliquaient pas la loi de Moïse, là, ils avaient le droit d'entrer. Donc c'était pour eux le lieu où s'approcher, où découvrir le Seigneur. Et les marchands encombraient cet espace. En n'étant plus à leur place, ces marchands qui rendaient un service étaient en fait devenus une gêne pour l'esprit de prière qui aurait dû régner en ce lieu. Alors Jésus les chasse, alors Jésus désencombre l'esplanade du temple. Alors la question se pose pour nous, de quoi avons-nous besoin d'être désencombrés? De quoi notre vie a-t-elle besoin d'être désencombrée? Quelles sont nos bottes et notre édredon, pour reprendre l'exemple du père Philarète, qui stoppe notre marche vers le corps du Christ, vers le Christ lui-même et vers mon prochain, membre de son corps? Quels sont nos marchands du temple qui, sous couvert de services rendus, parasitent notre avancée vers le sanctuaire où Dieu se laisse rencontrer? Et cette question est appelée à se poser depuis le concret et la particularité de chacune de nos existences. Ah, nous, ce qui encombre mon existence, peut-être que c'est ma connexion Internet, à la fois si pratique pour mes recherches, mais où chaque soir je traîne au point de ne plus être capable de me lever suffisamment tôt pour prier le matin. C'est peut-être ce qui me fait manquer la messe dominicale, je voulais avancer mon travail à tout prix, ou bien j'ai choisi un départ en vacances qui ignore ce rendez-vous du peuple de Dieu. C'est peut-être simplement ce qui me fait arriver en retard quasi systématiquement au repas familial, alors qu'on m'a appelé. Ah oui, je suis plongé dans mon livre, dans mon jeu vidéo ou autre chose, et du coup, systématiquement, je traîne avant de venir. Peut-être que c'est la conservation de souvenirs qui nous font revenir des situations ambiguës. Il y a parfois tel ou tel comportement auquel officiellement on a renoncé, mais voilà que dans notre mémoire ils sont encore présents et de temps en temps on aime à les réactiver. On se dit « oh ben non, j'y toucherai pas », mais on les ressort, j'allais dire, du tiroir de notre mémoire. Il y a certains souvenirs auxquels nous sommes appelés à renoncer et à demander la grâce de Dieu. « Seigneur, avec toi, je renonce à ce souvenir ambigu. » Ça peut être encore quand je suis fiancé, le temps passé à mon apparence. Il en faut un peu, assurément, mais parfois ce temps se fait au détriment de la connaissance de l'autre, dans la simplicité, dans la vérité. C'est le temps passé au bureau, à la machine à café, où l'on finit par médire sur tous les collègues absents pour meubler. Voilà, chacun est appelé à regarder qu'est-ce qui l'encombre dans sa marche avec le Christ. Mais en même temps que je fais cet examen, je peux me rendre compte que j'ai pas très envie de renoncer à ces objets, que j'ai pas très envie de renoncer à ces comportements qui encombrent. En fait, j'aime bien mes marchands du temple. Deux, je reçois une certaine satisfaction, même si elle est passagère, même si elle est illusoire. Et de Dieu, y a des jours où je ne sais pas trop. Il y a des jours où je ne sais pas trop. Je ne sens pas forcément sa présence. Je ne sens pas forcément qu'il est mon bonheur, mon seul bonheur. Et je n'ai pas très envie de tout lui donner, de lui faire confiance jusque-là. Sainte Thérèse d'Avila disait, en parlant de sa conversion, « Tout le mal venait, avant sa conversion, de ce que je ne retranchais pas jusqu'à la racine les occasions de péché. » Je ne retranchais pas jusqu'à la racine les occasions de péché. Et du coup, ça repoussait. Alors si je fais ce constat, ce triste constat d'une certaine manière, je dois me rappeler que Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme. On l'a entendu à la fin de l'Évangile. Jésus ne se fait d'illusions sur la force et l'élan de notre cœur, sur notre capacité à embrasser la conversion et à nous y tenir. Et donc nous n'avons pas à prétendre donner le change, à faire comme si nous étions pleinement joyeux de l'engagement dans la conversion. Jésus sait et il agit. Et la chose étonnante quand on regarde cet épisode de la purification du temple, c'est que ce n'est pas le peuple qui chasse les marchands du temple, mais c'est Jésus. Jésus, lui, le sanctuaire véritable, lui, le sanctuaire nouveau. La purification du temple n'est pas une œuvre du peuple, mais une œuvre du sanctuaire lui-même. C'est l'action de celui qui est le sanctuaire, qui permet le désencombrement des accès au temple de Dieu. Eh bien, Thérèse d'Avila, qui avait pris conscience de cela, sentit en fait son ingratitude pour Dieu et son besoin d'être sauvée. Et elle s'abaissa en lui exposant le fond de sa misère. Et nous pouvons faire la même chose. Je cite ce que disait Thérèse d'Avila. « Je me jetais aux pieds de mon Sauveur en versant un torrent de larmes et le suppliais de me donner la force de ne plus l'offenser. » Elle consent à recevoir de Dieu son salut et toutes les forces dont elle a besoin pour répondre au don de son amour. Et avec hardiesse, elle poussa sa confiance plus loin encore. Je cite encore. « Je dis à notre Seigneur que je ne me lèverai pas de là tant qu'il n'aurait pas exaucé ma prière. » Et alors, il l'exauça, dit-elle. « J'en suis convaincue, car à partir de ce jour, mes progrès furent sensibles. » Il est bon, parfois dans notre prière, j'allais dire, de devenir insistant, ne serait-ce que pour dire au Seigneur, « J'ai besoin de ta force, parce que moi, des forces, je n'en ai pas. » Et de lui demander avec insistance, parce que nous sommes parfois trop polis dans notre prière, « Seigneur, si tu peux penser à moi, si tu as le temps, mais si tu n'as pas le temps, c'est pas grave. » Quittons cette attitude-là pour lui dire, « Seigneur, sans toi, sans ta force, sans ta grâce, je ne peux pas vivre et je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies exaucé. Parce que Seigneur, je sais que tu es la vie, je sais que tu me donnes la vie, je sais que tu veux me la donner. » Seigneur Jésus, toi qui es le sanctuaire véritable, où le Père se donne à connaître, éclaire-nous sur ce qui encombre nos vies et nous empêche de te choisir comme notre seul bonheur. Viens aussi chasser nos marchands du temple, ceux auxquels nous sommes les plus attachés. Viens avec la même autorité dont tu fis preuve à Jérusalem. Tu es notre Sauveur, la clé de notre conversion. Ne nous laisse pas faire du place, ne nous laisse pas faire du surplace en ce milieu de carême. Nous voulons avancer vers le Père avec toi. Amen.